Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 141e Comics Weekly. Cette semaine, nous allons parler d'indé avec la sortie du tant attendu Jupiter's Legacy de Mark Millar et Frank Whiteley. Nous parlerons aussi de Helheim ou d'un projet digital Mod City. Chez Marvel, nous nous intéresserons à Uncanny X-Men, New Avengers, Avengers, Uncanny Avengers et Guardians of the Galaxy. Et enfin, pour terminer la partie review de l'émission DC avec Batman Inc., Justice League Dark et All-Star Western. Et bien sûr, nous conclurons le tout avec le tour des TPB sortis cette semaine et qui valent le coup qu'on y jette un œil. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine pour commenter les sorties VO, Florent.
Hi, Billy Ho. Hello.
Et Bruno.
Non, I'm Batman. Non, bonjour à tous.
Très belle imitation. Nous allons commencer cette semaine par de l'indé, puisque c'est la sortie du très attendu, comme je le disais dans l'introduction, Jupiter's Legacy, qui a eu énormément de retard. Un projet signé Frank Whiteley. Bruno, tu nous en parles ?
Ouais, donc Mark Millar au scénario, Frank Whiteley au dessin. Un titre qui à un moment s'est appelé Jupiter's Children, puis Jupiter's Legacy. A priori, il y a eu un énorme print, il y a eu beaucoup de ventes au Comic Shop, donc c'était un titre vraiment très attendu. Et on en savait très peu jusqu'à présent, juste qu'il allait y avoir une histoire de génération de super-héros. Et en fait, dès le premier numéro, on nous présente justement le concept derrière ce titre, à savoir, ça se passe au départ dans les années 20, après la crise, enfin c'est plutôt 30. Les années 30 on va dire,
puisque
c'est après la crise de 29. On suit un groupe d'Américains qui sont à la recherche d'une île mystérieuse, puisque un des personnages de ce groupe en fait a eu une vision d'une île qui, soi-disant, leur apporterait tout un tas de choses qui permettraient de lutter contre la crise aux États-Unis. C'est un peu bizarre comme ça. Et donc ils se retrouvent avec un groupe d'amis à partir à la recherche de cette île, un peu façon Lost, quoi, parce que le gars il a l'île qui lui parle dans ses rêves. Voilà, c'est un peu bizarre. Ils trouvent cette île, une île mystérieuse, et ils en ressortent avec des pouvoirs, et ils deviennent un groupe de super-héros. Et a priori, tout se passe très bien après dans le meilleur des mondes, puisqu'ils interviennent un petit peu dans tous les grands événements marquants de l'histoire. Si j'ai bien compris, on arrive un peu à une sorte de civilisation un peu utopique, où justement les super-héros ont réussi un peu à maîtriser tout le mal dans le monde. Donc après, l'histoire commence vraiment à notre époque, donc on est mars 2013 dans cette Uchronie, où justement il y a eu des super-héros qui existaient, et on suit la deuxième génération, à savoir les enfants de ces personnes qui étaient allées sur cette île et qui avaient eu des pouvoirs, qui eux aussi ont des pouvoirs. Donc il y a le passage en fait des pouvoirs avec la génétique. Par contre, les enfants ont l'air d'être un peu des têtes de con, quoi, parce que ils ont pas du tout la même envie que leurs parents d'utiliser leur pouvoir pour le bien, mais ils font ça un peu plutôt pour leur pomme. Il y a une gamine qui cherche qu'à avoir des contrats publicitaires, il y a son frère qui a l'air d'être un queutard qui utilise ses pouvoirs juste pour son plaisir.
Oui, utilise le Star System, hein, tout simplement.
Voilà, c'est ça, le Star System. Et donc voilà, bon, pour l'instant, en fait, ce premier numéro, c'est vraiment pour nous présenter les personnages. On voit aussi que les héros des années 30, en fait, ils sont encore vivants actuellement. Ils sont un peu vieux, mais ils ont quand même relativement bien vieilli, on va dire. Et on les voit combattre à un moment un méchant. J'ai beaucoup aimé la façon dont le combat se termine. C'était assez inventif. Puis il y a un petit cliff à la fin qui concerne un des enfants de super-héros. Mais bon, on voit pas très bien quel va être le fil conducteur après ce premier numéro. Très bon, que j'ai trouvé quand même pour ma part, assez curieux cette histoire d'île. De très beaux dessins de Frank Whiteley, un Frank Whiteley très lisible par rapport à d'autres titres comme par exemple qui était sorti récemment chez Urban, Flex Mentallo, c'est beaucoup plus lisible.
Ouais, enfin Flex Mentallo, ça date des années 90 aussi. Hein.
Ouais, ça, son style a bien changé depuis, mais j'ai trouvé le titre assez beau à ce niveau-là. Voilà, c'est mystérieux, je sais pas ce que vous en avez pensé.
Pour rester sur la partie dessin de Frank Whiteley, il a vraiment une rupture dans le style quand il dessine les années 30. Alors, il y a aussi une rupture due à la colorisation. Ouais. Mais dans son style, il a un style assez différent. au moment où il dessine le passé par rapport au moment où il dessine le présent.
C'est vrai.
Et
c'est
du
vrai.
Coup, visuellement, on identifie assez rapidement les deux périodes. Florent, si tu as envie de me dire un petit mot sur Jupiter's Legacy.
Oui, bah c'est un titre vraiment riche. Effectivement, quand tu présentes un petit peu le résumé du titre, il y a plein de portes ouvertes. Il y a cette génération, comment elle a obtenu ses pouvoirs. Ça, c'est évidemment la première question qui se pose.
Sur laquelle il reviendra sûrement, à mon avis.
Oui, ça me semble évident. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de portes ouvertes. Au niveau de la génération actuelle, je trouve le titre bien évocateur, et je pense qu'il est meilleur que Jupiter's Children. C'est-à-dire que ça parle des enfants de Jupiter, des enfants de ses héros, de ses vieux héros, mais ça parle surtout de leur héritage et de qu'est-ce qu'ils en font, surtout. Et cette rupture qu'il y a entre les anciens super-héros, du Golden Age, en fait, on pourrait dire, d'ailleurs, je pense que c'est cité, d'ailleurs, un peu comme un clin d'œil, ouais. dans le comic. Il y a quand même ce rapport à leurs parents, à leurs aïeux, comment la société est modifiée, il y a...
Comment la société modifie aussi les...
Et voilà, enfin, voilà,
enfants.
C'est ce que je voulais dire, voilà.
Ah, mais non, mais tu as raison aussi, comment la société a été modifiée par l'apport de ces super-héros, mais comment elle a modifié en elle-même ses enfants.
Voilà, ces enfants qui sont nés avec ces super pouvoirs et qui n'ont pas demandé à les avoir, et alors que leurs parents, eux, sont allés les chercher, avaient ce rêve un peu, de sauver l'Amérique et d'aller chercher ces pouvoirs. Ils savaient pas qu'ils allaient avoir des pouvoirs, mais voilà.
Ils ont toujours vécu sans, et du coup, ils avaient vécu toute une première partie de leur vie sans ces pouvoirs jusqu'à ce qu'ils les obtiennent. Et donc, du coup, ils savent l'effet que ça fait de ne pas avoir de pouvoir et d'être un peu impuissant face aux dure réalité de la vie. Je vais dire ça comme ça, ça fait un petit peu cliché, mais en tout cas, la période de 1932 était quand même une période assez dure. Alors que les enfants, eux, ont toujours connu les pouvoirs, ont toujours connu ce sentiment de puissance et ne savent pas ce que c'est que d'être démunis face à la réalité. Ils sont à l'abri du besoin aussi, puisqu'on voit bien qu'ils ont finalement beaucoup d'argent.
Ouais, le Star System.
Oui, et puis oui, ils sont effectivement déconnectés des réalités, quoi. Ça, c'est très clair.
Il y a un message aussi pas mal sur la politique. Il y a une partie que j'ai trouvée très intéressante, puisqu'on ces personnages du Golden Age, à notre époque, ils ont une vision un petit peu différente. Il commence à y avoir des fractures un petit peu entre eux sur la vision par rapport à la politique, savoir s'ils doivent s'engager ou non dans les décisions du monde.
Oui, on va peut-être pas tout dire, mais oui,
c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a déjà des clivages aussi, même parmi les gentils, pour les idées, en fait, de la façon d'utiliser leur pouvoir.
Il y a un petit truc de un peu de The Authority ou de peu de choses, enfin voilà, dans les idées.
Mais il y a plein d'influences de partout, en fait, c'est ça qui est très bon. Et c'est très étonnant parce que Millar a très très bien écrit une histoire de super-héros. Il a pas fait dans la surenchère, en tout cas pas dans ce premier épisode.
Il y a pas de fuck, hein, je crois pas. Il dit pas fuck.
J'en sais rien. J'ai pas fait attention, honnêtement, ça me choque tellement plus que...
Non, c'est très sobre dans C'est assez sobre.
C'est vraiment bien écrit, on rentre très facilement dedans, même si c'est vrai que la séquence d'introduction, je l'ai trouvée peut-être un petit peu longue à la première lecture. Je me suis dit, est-ce que ça démarre un peu? Parce que, voilà, est-ce que tout le premier numéro va être comme ça? Bon, finalement, après, on a toute cette deuxième partie. Et effectivement, j'ai trouvé l'ensemble très bien écrit, très fluide, même si, finalement, on le lit pas en 2 minutes non plus. Et ça aussi, c'est très intéressant. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est un comic Image. Mark Millar ne l'a pas publié chez Icon cette fois-ci.
Ouais.
Donc, est-ce que c'est aussi pour ça qu'il s'est, on va dire, appliqué? Ça paraît peut-être un peu trollesque de dire ça comme ça, mais il y a vraiment... J'ai le sentiment d'une rupture. On est vraiment loin d'un Kick-Ass, d'un Nemesis. On est loin de tout ça. On est pas
c'est
non plus...
C'est super bizarre, le Millar World, parce que, comme tu dis, ouais, il y a même une pub pour les titres Icon à la fin... Aucun Image, c'est très bizarre.
Ah, mais il a le droit.
Non, mais c'est parce que, c'est parce que l'auteur chez Image, il possède
ce qu'il veut.
Truc,
ouais.
Hein.
Mais c'est ça
qui est
vraiment
ce qu'il veut. Sur tous les bouquins Image, quand t'as d'autres publications chez d'autres éditeurs du même auteur, il y a une pub pour toutes ces publications.
Ouais. Non, mais c'est marrant.
Excepté chez les boulots de chez Marvel et DC, bien sûr.
Oui, excepté le mainstream. Ouais.
C'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que on a cette rupture dans le style d'écriture de Mark Millar. Qui c'est complètement à l'opposé, en tout cas pour le moment, pour ce premier numéro, d'un Kick-Ass ou d'un Nemesis qui sont très rentre-dedans, très hardcore, et c'est pas non plus conte de fées comme on a pu le voir avec Superior ou 1985 par exemple. On est vraiment dans un autre style.
C'est paracolor, c'est sobre mais très riche. Pour moi, c'est à mon avis au moment le meilleur truc que j'ai lu de Mark Millar.
En tout cas, là, ça en, honnêtement, ça en prend le chemin. Ouais,
ça commence bien.
Ça commence très bien.
J'espère qu'il n'y aura pas trop de retard.
Faut espérer. En même temps, ils avaient retardé aussi la sortie pour qu'il y ait quelques numéros d'avance. Donc, bon, après, s'il y a une pause au moment où on clôt un premier chapitre et que pour le deuxième arc, on a même quelques mois d'attente, à la rigueur, ça passe mieux, quoi. Si c'est pas en plein milieu d'un arc, ça passe mieux. Ouais, finalement, je crois qu'on est tous unanimes sur ce premier titre. Une très bonne surprise.
Ah oui, oui, ouais, clairement. Un bail.
C'est immanquable. Hein. C'est un truc que tout, que beaucoup attendaient. C'est vraiment immanquable. Mmh. C'est très 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 bon et c'est très riche à la lecture.
J'ai hâte
ça
de voir.
Ça aurait pu être mon coup de cœur d'ailleurs.
Ouais, bah moi aussi, presque un coup de cœur. Ouais. Ouais, ça va être mon coup de cœur de la semaine hein, finalement, puisque au vu du reste, ouais, c'est ce qui ressort le plus. Et j'ai hâte de voir les chiffres du mois d'avril pour voir à combien d'exemplaires ce sera vendu. Mais à mon avis, on risque de le retrouver très facilement dans le top des ventes celui-ci. Dans le top 10.
Il me semble avoir lu qu'il y avait plus de 200 000 précommandes hein, quand même. Donc j'attends de voir, mais
c'est énorme. Donc gros bail pour tout le monde et on va passer à la suite, toujours dans l'indé, un produit de chez Dark Horse, non, de chez IDW.
Non, Onipress.
De chez Onipress, voilà. Jamais 203. Un produit
on
de chez
parle
Onipress.
Pas souvent,
oui, non, mais je le sais, en plus, pourtant je l'ai lu. Mais voilà, c'est LAM numéro 2, c'est Florent qui nous présente ça.
Oui, c'est écrit par Cullen Bunn, illustré par Joel Jones, et colorisé par Nick Filardi. On suit, en fait, dans cet univers, enfin, dans cette époque viking. Oui, c'est ça, ça se passe au Moyen-Âge.
Ça se passe en 400 et quelques, quand même.
Ouais, vraiment au tout début du haut Moyen-Âge, ce clan viking qui essaie de se protéger contre des hordes de morts-vivants et de sauvages. Et au précédent numéro, le personnage principal, se faisait tuer, hein. Il se faisait méchamment couper la tête et revenait, et sa bien-aimée, qui semblait être une sorcière un peu chelou, l'a ravivé de manière un peu Frankenstein, si vous voulez. Si vous voyez la cover du... La couverture du premier numéro, voilà, c'est un gros strum plein de coutures et plein de muscles.
Et c'était le gros cliffhanger qu'on avait à la fin de ce premier épisode.
Voilà, le gros cliffhanger. En fait, on se demandait en le disant justement d'où sortait ce monstre-là. On le savait à la fin. Et dans ce deuxième numéro, ça va tout doucement. Hein, ça va tout doucement. En gros, on voit un petit peu ce. Donc c'est Ricard, c'est ça ?
Oui, c'est Ricard. Ricard. Ouais.
On voit un peu Ricard en action pour protéger ses compatriotes.
Même y a pas les gens de son clan en fait, hein, ce sont des gens comme ça qui trouvent un peu dans la nature.
Oui, c'est pas des sauvages, c'est ça que je veux dire. C'est des villageois quoi. S'ensuit une grosse baston bien violente et assez sanglante, et on en sait un petit peu plus sur ce que veut cette sorcière justement et cette relation qu'elle a avec lui, ce genre d'amour un petit peu. Elle l'utilise plutôt comme une arme, quoi. Et on se rend compte qu'elle est pas là, pour protéger son clan. Elle est plus là pour éliminer ce qui semble être une rivale.
La sorcière qui envoie toutes ses légions de monstres sur tous les clans depuis le premier
numéro. Son objectif, c'est pas de protéger le clan contre eux, c'est plutôt de directement s'attaquer à ce clan-là et à cette sorcière-là. Je me doute qu'elle s'en fout un petit peu du clan de Ricard en fait. Voilà, il y a pas grand-chose à en dire, l'histoire avance assez lentement hein.
Ce qu'on peut rajouter c'est que la sorcière qu'il est censé dézinguer, on la voit en fin d'épisode. Et est-elle une sorcière aussi méchante qu'on veut bien nous le faire croire?
En fait, on a un peu l'impression que c'est un peu le même d'ailleurs je l'ai lu un peu vite et j'ai au début, je comprenais pas tout et j'ai fait mais c'est pas le même clan et en fait non en fait on c'est pas le même clan que celui de Ricard mais ça pourrait l'être en fait. On a l'impression en tout cas que c'est est-ce que effectivement qui est gentil, qui est méchant, c'est plus compliqué que ça probablement.
Comme toi, hein, j'ai senti un côté qui traînait un peu en longueur. Finalement, j'aurais peut-être préféré que ces deux premiers épisodes n'en fassent qu'un seul.
Ah oui, c'est clair.
Un double numéro. Oui. Et j'aurais été plus accroché. C'est vrai que j'avais hâte de lire ce deuxième épisode et je suis un peu resté sur ma faim à la lecture de ce deuxième. Ça reste toujours très sympa. Les bastons sont très sanglantes, ça bouge un petit peu. Mais finalement, on le lit relativement rapidement et on se dit, bon, ça n'a pas tant avancé que ça. On en apprend un peu plus sur le personnage de Ricard et on va dire son apparente résurrection, comment ça marche à peu près. En tout cas, un petit peu. Mais
il y a encore plein de questions posées.
Ça rentre pas assez dedans finalement, ça n'avance pas assez vite.
Oui, ça manque d'un d'un vrai truc pour nous donner encore envie de la suite, quoi. Enfin, le principe d'un single, c'est d'avoir un beau cliff et de ça traîne un petit peu. En revanche, visuellement, un petit mot sur les dessins. Joel Jones, c'est le même dessinateur que sur le premier numéro. C'est très très beau. Hein. C'est vraiment c'est assez personnel comme style, mais
c'est très sympa.
Vraiment super.
Juste un peu vide, les cases un peu vides, quoi. Les fonds sont relativement.
Parfois les fonds sont un peu simples. Ouais. Parfois il y en a pas.
Des petits aplats de couleurs et voilà, ça s'arrête là, quoi.
Parfois il y en a pas. Mais
pour
mais
certaines
les personnages
cases,
sont très beaux.
Plus on avance vers le numéro, j'ai l'impression peut-être qu'il a rushé un peu pour finir parce que plus on avance vers la fin et plus les fonds sont vides, quoi.
Oui, complètement. Bah c'est exactement ça.
Pour un épisode mainstream, on peut se permettre d'avoir de prendre 2-3 épisodes pour démarrer la série. On sait que c'est du mainstream, on sait que ça va rester. Quand on est chez un plus petit éditeur, beaucoup de gens suivent que du mainstream et finalement, bah, quand on voit qu'au bout du deuxième épisode, ça n'a toujours pas commencé et qu'on est chez un petit éditeur qui travaille souvent sur peu de fonds, on se demande si la série ne se vend pas beaucoup, est-ce qu'elle va continuer très longtemps, et on n'a pas forcément envie de perdre trop de temps à étaler, poser l'univers. Autant faire un premier arc qui rentre dedans, poser l'univers dès le deuxième. Et c'est vrai que ça peut-être rebuter certains, la lecture de ce deuxième épisode, se dire, bon bah si c'est comme ça tout le temps, j'arrête. Moi j'ai envie de dire, j'ai envie d'essayer de continuer, mais je sais pas si ça tient ce rythme-là, je continuerai peut-être pas très longtemps et je me réorienterai vers la lecture en trade. Malheureusement, la lecture en trade pour les petits éditeurs, c'est pas ce qui leur permet de survivre.
C'est vrai que pour le moment, c'est un petit peu plus décevant que le premier, quoi. Mais je vais continuer comme toi.
Ouais, bah moi pour moi du coup, ce deuxième épisode, ce ne sera qu'un check-it.
Pareil, un bon check-it.
Alors que le premier était pour moi plus proche d'un bail, quoi.
Ouais, carrément. C'est dommage.
Ouais, un petit peu dommage. On va terminer la partie indé avec un projet digital qui s'appelle Moth City. C'est scénarisé et dessiné par Tom Gibson. Alors, ce n'est pas sorti aujourd'hui, enfin hier, puisqu'en l'occurrence on enregistre les jeudis. Ce n'est pas sorti hier, c'est simplement disponible depuis hier sur Comixology au prix de 99 cents. C'est pas très cher. Alors, il y a une très très jolie introduction de Mark Waid qui dit que c'est peut-être une des meilleures choses qu'il ait pu voir en digital et que pour lui, le digital devrait être fait comme ça. Donc, on a ce côté très turbo-média avec l'apparition des cases, avec des changements dans les couleurs, avec simplement des petits mouvements de tête ou les bulles qui apparaissent au fur et à mesure. L'histoire se passe dans un monde, on va dire, un peu oriental. On est proche de la Chine, du Vietnam, de tous ces pays-là. Et on est dans un camp de travail où un Américain fait des espèces de bombes, quelque chose comme de l'anthrax, quoi, une espèce de poudre.
Attaque bactériologique.
Voilà, c'est ça. Je retrouvais plus le mot. Une bombe chimique, voilà. Et donc il a tout un tas de, on va dire, d'esclaves à son service et il est prêt à vendre cette espèce de bombe à un militaire chinois. Qui est bien sûr très froid, très manipulateur, très calculateur.
Très chinois, quoi.
Ouais, on n'a pas de date, mais c'est ça pourrait être dans fin des années 30, ça pourrait être les années 50 ou les années 60 aussi, comme ça pourrait être à notre époque. On ne sait pas trop. Et c'est plutôt bien amené parce que du coup, on ne sait pas trop quand on se place. On sent que c'est en tout cas dans le passé, vu que bon, en tout cas à la lecture de ce premier numéro. On ne voit pas de téléphone portable, on ne voit pas d'ordinateur ou de choses comme ça. On ne sait pas trop quand on se place, quoi. Bien sûr, les choses vont pas se passer aussi simplement que ça. Je vous laisse découvrir pourquoi. Moi, j'ai trouvé la lecture très bonne. Le côté turbo-média est bien amené. On a vraiment un jeu avec les cases, avec ce qui apparaît, qui est très intéressant. C'est pas du balak, c'est sûr, mais c'est plutôt pas mal. C'est un gars tout seul qui a fait ça, quand même. Alors, si vous voulez tester la marchandise avant, vous pouvez vous rendre sur modcity.com, tout simplement, et lire, parce que là, c'est le premier épisode qui est donc la première saison. La première saison sera coupée en deux histoires, donc ce premier numéro plus un deuxième. Tout est lisible gratuitement sur leur site, cependant c'est dans un lecteur intégré qui est pas très très grand. Ça reste lisible facilement, mais c'est assez petit, on ne voit pas forcément bien le détail de tout. Donc du coup, voilà, pour un prix modique, parce que 99 cents, c'est vraiment pas grand-chose, on passe une bonne vingtaine de minutes à le lire facilement. Je trouve que c'est un prix relativement abordable et ça mérite de le signaler. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site officiel de la BD, lisez un peu, voyez ce que ça donne. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à soutenir ce projet parce que voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Sur le site, vous pourrez retrouver la première saison au complet, plus le début de la saison 2, donc hein, le premier épisode. Ça représente une trentaine de pages, on va dire, comics classiques, mais en termes de Turbo Media, ça fait à peu près 170 cases, quelque chose comme ça. Enfin, 170, enfin l'équivalent de 170 pages, mais 170 images différentes, quoi. Donc voilà, un bon petit projet. J'ai envie de dire, bah, c'est pas cher, c'est un bail, quoi. Essayez-le. Franchement, donnez sa chance au produit, essayez-le. Puis voyez si ça vous plaît ou pas. C'est tout pour la partie indé. On va maintenant passer à la partie Marvel et on va commencer avec le Uncanny X-Men numéro 5. C'est Florent qui nous en parle.
Oui, donc nouvel arc et nouvel artiste. Donc c'est toujours Brian Bendis au scénario, évidemment. Et c'est Fraser Irving qui dessine cette fois pour tout le prochain arc. Et on peut quand même faire un mot sur l'art, c'est très particulier.
Moi j'adore.
Irving ne se compromet pas en faisant du mainstream et une série vraiment de Bendis quoi. Il est vraiment dans son style très très étrange avec des traits qui peuvent changer d'un personnage à l'autre, des styles qui peuvent changer d'un personnage à l'autre. Je pense à Magic et à sur les premières pages à Magic et à Cyclope qui ont deux styles totalement différents, c'est très très étrange. Des fonds un peu nébuleux, des couleurs assez folles, qui d'ailleurs vont très bien avec l'histoire. Et l'histoire, on parle de Magic. Iliana donc qui à la fin de l'épisode précédent avait une genre de crise quoi. On ne sait pas trop ce qu'elle avait.
Et, le suppôt était mal passé.
Le suppôt de Satan.
bravo, merci de m'avoir bien repris là.
Tu me fais une transition toute trouvée, puisque effectivement, elle va raconter dans ce numéro en gros ce qui lui est arrivé.
Ça tend la bite. Tout ce qui... Ah pardon.
Oh non.
Donc comme vous le savez peut-être, comme moi je l'ai découvert récemment, vu que ça fait pas longtemps que je connais ce personnage, donc c'est un peu le transporteur des Uncanny X-Men. Et pour faire sa téléportation, elle passe par les limbes, donc un genre de plan d'existence où il y a des démons, c'est un peu l'enfer quoi.
Oui,
c'est un des plans de l'enfer. Voilà, c'est un des plans de l'enfer. Visiblement, quand elle a eu sa crise, elle est restée bloquée dans les limbes et elle s'est confrontée à Dormammu, le démon. Sans doute, moi c'est la première fois que je le rencontre.
Dormammu, on le voit très souvent dans Doctor Strange notamment. C'est le grand ennemi de Doctor Strange.
Voilà, oui, ça, c'est ce que je savais en tout cas. Et donc Magic va être confronté à Dormammu qui visiblement n'a plus envie qu'elle se serve des limbes pour faire sa téléportation. Et Magic va un petit peu s'énerver et si on peut dire, et va se transformer en Darkchild.
Retour à Darkchild, donc.
Voilà, donc qui était a priori voilà le démon qui habitait. Steve, vas-y, tu peux.
Oui, en fait, pour faire très simple, Iliana, c'est la petite sœur de Colossus, et pendant longtemps, elle était qu'une gamine, jusqu'au jour où elle est tombée dans les limbes. Elle y est restée pendant l'équivalent d'un an sur Terre, mais pendant ce temps-là, elle a vieilli jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à partir de ce moment-là, on l'avait retrouvée dans les New Mutants. Elle était devenue, justement, là aussi, le téléporteur de l'équipe. Et elle avait cette partie démoniaque en elle, puisqu'on lui avait volé un morceau de son âme et elle était devenue un peu la régente de là-bas et elle n'avait pas eu le choix, il avait fallu faire quelques concessions et prendre une apparence démoniaque. Voilà. Voilà. Très résumé, hein, c'est très 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 succinct, il y a plein de détails en plus.
C'est très bien pour nos lecteurs newbies comme moi. Et donc, elle va mettre sa pâtée à Dormammu. Et je vous raconte pas la fin, mais en gros, Darkchild, elle n'en a pas fini avec ses crises et les Uncanny X-Men et Cyclope vont essayer de l'aider. Et ça va mal tourner.
Est-ce que finalement ça a à voir avec la corruption phénix que l'on voit sur les pouvoirs des autres, comme celui de Cyclope, d'Emma Frost, de Magneto aussi?
Je pense que oui.
Oui, c'est même carrément expliqué.
C'est évoqué.
D'accord, mais j'étais pas complètement sûr, au vu du résumé, j'étais pas complètement sûr que ça avait à voir avec ça, ou est-ce que c'était finalement peut-être autre chose et que c'était une pseudo-fausse piste que nous lançait Bendis dans le dernier épisode.
C'est bien que ça soit lié à ça, parce que justement, voilà, ça se lie dans la continuité.
Ses pouvoirs sont complètement déréglés, en fait. Et, elle pensait garder un contrôle total sur ça, mais en fait, non, pas du tout.
D'accord.
Voilà, donc en gros, je pense que Bendis va passer, comme il a passé du temps avec un petit peu avec Emma Frost sur sa perte de pouvoir, etc. Là, il passe à Magic et pour savoir un petit peu ce que le Phénix lui a fait et ce que ça, du coup, ce que ça implique pour ses pouvoirs et pour le contrôle qu'elle a sur les limbes. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un personnage que je connais pas et du coup c'est pas mal de la voir dans les limbes et de voir un petit peu son passé ressurgir.
Tu l'as lu aussi, toi, Bruno ?
Ouais. Moi, j'ai trouvé ce numéro excellent. Enfin, je suis un gros fan de Fraser Herring, de son style. Et là, c'était vraiment particulièrement adapté. Toute la représentation des limbes est sublime.
Oui, c'est ça. Ça va parfaitement. Ses couleurs, etc., ça va parfaitement. Quoi.
Et en plus, à part Iliana, il se passe aussi un peu des petites choses. Il y a pas mal de dialogues avec les jeunes étudiants, dont la nouvelle recrue qui a été récupérée de chez l'école de Wolverine. Enfin, les nouvelles recrues. Il y a pas mal d'humour, il y a une petite scène qui m'a beaucoup fait rire avec les cucus, comment elles s'appellent, les sœurs de d'Emma Frost là, les cucus, voilà, il y a le black de l'équipe qui voulait un peu les draguer, c'était très drôle la façon dont elles ont réglé son cas.
C'est de la bonne caractérisation des cucus, quoi.
Non, ça c'était classe. Et non, vraiment, c'est super mystérieux ce qui se passe avec Iliana. Et non, ça va être. Franchement, moi, je trouve ça cool. Et le numéro précédent était un petit peu lent, et là, ça repart sur des choses intéressantes. Et pour moi, c'est une très bonne surprise et un bail.
Tout à fait. C'est clairement mieux que le précédent.
D'accord.
C'est en dents de scie cette série, hein, de toute manière. C'est en dents de scie.
Donc vous êtes tous les deux unanimes, un gros bail.
Ouais, c'est un bon bail. Un bon bail. Et l'artiste est vraiment top, quoi. Faire découvrir cet artiste sur une série mainstream qui vend beaucoup, c'est audacieux, je trouve, de la part de Marvel, parce que ça plaît pas à tout le monde quand même.
Il avait déjà quand même travaillé sur du projet mainstream chez DC, sur des Batman, etc.
Il fait partie de l'équipe un peu des artistes de Morrison, donc.
C'était du Morrison, c'était des trucs toujours un peu chelous, quoi. Là, il travaille avec Bendis, quoi. Il n'y a pas plus.
Il n'y a pas plus mainstream, c'est clair.
Ça, c'est sûr.
Donc c'est couillu et c'est vraiment cool.
Très bien. On va passer à la suite. C'est la sortie du New Avengers numéro 5, Bruno.
Jonathan Hickman au scénario, Steve Epting au dessin. Dans ce numéro, en fait, on revient un petit peu sur l'histoire de l'énigmatique Black Swan, donc cette meuf qui est apparue dans le premier numéro et qui avait l'air d'en savoir beaucoup sur toutes ces incursions et sur ces destructions d'univers. On a un petit flashback sur la fin du combat qui se passait à la fin du numéro 4, où on voyait l'équipe des Avengers qui était arrivée sur une terre qui allait être détruite, et ils se battaient contre un des héros de Galactus. Un combat assez vite expédié, mais plutôt intéressant. Voilà, après c'est vraiment complètement barré les idées de Hickman par rapport à cette Black Swan. J'avoue que j'étais un petit peu perdu, mais j'ai trouvé ça passionnant, avec ces histoires de portes pour passer de réalité en réalité, et en fait elle en sait beaucoup plus qu'elle ne l'avait dit jusqu'à présent, et elle donne plusieurs pistes aux Avengers pour essayer de lutter contre ces destructions d'univers. Mais ces solutions sont très très extrêmes, donc ça risque de partir un petit peu en couille. Niveau des dessins, c'est toujours aussi bon, enfin j'aime beaucoup ce que fait Steve Epting sur la série, donc moi j'aime bien. Voilà, ça lance bien le mystère par rapport à ces incursions et tout, et j'attends la suite avec impatience. Moi, je trouve ça toujours aussi solide. Après, par contre, c'est vraiment de la menace catastrophique, quoi. Il y en a partout, parce qu'après, on va parler d'Uncanny Avengers, et c'est pareil, c'est assez catastrophique aussi, donc c'est la merde hein, chez Marvel, donc voilà.
Eh ben, on va continuer dans la merde, justement. C'est un bail pour toi ?
C'est un bail, ouais. Franchement, toujours aussi cool.
On va continuer donc dans la merde avec l'autre série de Hickman, c'est le Avengers numéro 10, qui est dessiné par Mike Deodato. Bon, Mike Deodato, c'est toujours sublime. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop ce qu'il fait, mais moi, je trouve ça vraiment sublime, quoi. Cette fois-ci, on va avoir les Avengers appelés par le Shield et le Canada, puisque, rappelez-vous, il y avait une ville au Canada qui avait été touchée par la bombe qu'avait envoyée... Exodus qui me venait en tête, mais Ex Nihilo. Donc ça va se passer dans cette ville de Regina au Canada, dans la province du Saskatchewan, et on va voir que le Canada a envoyé une équipe Flight, la Omega Flight, qui contenait notamment Wendigo, mais aussi Box, Kingdom et Validator. Malheureusement pour eux, les choses vont pas bien se passer, ils vont pas en ressortir, et donc du coup le Canada est obligé de faire appel aux Avengers afin d'aller voir ce qui se passe dans cette ville, puisqu'ils n'arrivent pas à rentrer dedans. Il y a un dôme qu'il s'est fait autour, et le seul personne qui va pouvoir y aller, c'est bien sûr Eden Fassi avec son pouvoir de téléportation. Les choses vont très très mal se passer. Je vous laisse découvrir pourquoi, je vous laisse découvrir comment. Reste qu'on a tout un tas de questions à la fin de cet arc, à la fin de cet épisode, pardon, et très peu de réponses finalement. Et le peu de réponses que l'on a nous pose encore plus de questions. C'est intéressant. La mise en scène est très bonne, donc ça se lit vraiment bien. Maintenant, je commence à en avoir marre des questions. Il va falloir qu'il nous donne des réponses. Ça devient lassant. Et il est temps que Jonathan Hickman commence à nous répondre à des trucs, parce que si on doit attendre Infinity pour la réponse, ça veut dire qu'il y en a encore pour 3 ou 4 mois. Et au rythme où ça sort, ça veut dire 2 épisodes par mois. Ça va être long.
Ouais. Je pense qu'il va, il va essayer de conclure quand même pas mal de choses avant Infinity, parce qu'Infinity, ça a l'air de partir quand même sur autre chose. Donc,
On pourra le lire sans avoir lu toutes ces, ouais, toutes ces conneries.
Mais ouais, ça a l'air intriguant en tout cas. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire, mais ça m'a donné envie.
Oui, mais c'est franchement, c'est vraiment très sympa. Mais le problème, c'est que on commence à plus y croire, parce que entre ce que tu nous racontes dans New Avengers, ce que l'on voit dans Avengers, ce dont on va parler dans Uncanny Avengers,
C'est la merde partout, quoi. C'est juste
n'importe quoi. Chacun fait son gros event apocalyptique dans son coin et on n'y croit plus.
Ouais, là,
chaque histoire racontée pourrait être un event en lui-même. C'est trop. Il faudrait peut-être des histoires un peu plus simples, un peu plus, je veux dire, basiques, mais pas forcément de façon péjorative. Mais faites des histoires simples, quoi. On est quand même au 10e épisode d'Avengers, et on est toujours sur cette histoire des bombes d'Ex Nihilo qui ont été lancées dans le premier. C'est bien qu'on ait quelque chose de long qui dure, un très gros fil rouge.
De long et qui est dur?
Non, j'espérais que personne ne rebondisse là-dessus, mais bon, tant pis. C'est bien qu'on ait un très long fil rouge. Mais au bout d'un moment, il faut aussi faire des histoires qui s'intercalent entre les deux. Des histoires où on voit les héros agir, pas comme dans ces petites histoires one-shot ou qui finalement étaient anecdotiques. Les épisodes 4, 5, 6, là, qui nous présentaient d'autres personnages. Et sachant aussi que dans Avengers, on attend toujours encore 6 nouveaux personnages au casting.
Ça donne pas envie de m'y mettre.
Hein. Non, mais le problème, c'est que ça devient trop compliqué. Beaucoup trop compliqué pour... pas forcément du mainstream, mais pour une série qui est quand même sacrément vue, qui s'appelle Avengers.
Très ambitieux.
Il arrive à les vendre, ces séries.
Et pourtant, ça se vend toujours. Ça se vend toujours, mais je pense qu'il va en perdre en route. Et ce serait dommage, parce qu'on sent qu'il a quelque chose qu'il veut dire, qu'il veut faire, mais il serait temps que ça arrive, quoi.
Ouais, ça change de savoir qui est-ce. Ouais, ce que je veux dire, ça change de savoir qui est-ce qui va s'occuper du gamin de Luke Cage et.
Ah bah c'est sûr que là, comparé à du Bendis, on est dans complètement autre chose.
Ah bah,
c'est certain.
Bendis après 8 ans d'Avengers, c'est un peu papa à la maison. Hein.
Alors pour moi, ça va rester un bail, cet Avengers 10, parce que l'histoire est bonne, parce qu'il y a vraiment plein de mystères et que c'est super intéressant. Mais maintenant, il nous faut des réponses quand même un tout petit peu, parce que ça paye un petit peu qu'on soit pas là depuis le début pour finalement toujours rien, quoi. Allez, je te passe la parole, Bruno, puisque tu vas nous parler du Uncanny Avengers 7, qui est ton coup de cœur de la semaine.
Ouais, un gros bon coup de cœur. Déjà, le numéro précédent m'avait vraiment passionné avec cette histoire qui se passait dans le passé avec Thor, qui était face à un apocalypse du Moyen-Âge à peu près. Et c'était vraiment super. Et là, on revient à notre époque. C'est un petit peu les suites de ce qui s'était passé dans le numéro 5, les conséquences de la mort du frère de Wonder Man. Donc il y a pas mal de dialogues avec intervention du Shield qui vient voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer la situation, parce que du coup là Rogue a été vu comme étant un assassin devant toutes les télés, donc il faut qu'il fasse un petit peu de PR, quoi, de relations publicitaires pour faire un peu de pub pour les Uncanny Avengers. Donc là il y a tout ce côté très intimiste dans l'équipe que je trouve est très bien écrit par Remender. On a des nouvelles union un peu qui se font entre les personnages, par exemple entre Janet et Havok. On voit aussi que la sorcière rouge avec Rogue, ça clash pas mal. Donc j'aime beaucoup la façon dont sont traitées les relations entre les personnages dans cette équipe. Donc ça commence à prendre un petit peu du sens, cette histoire d'Uncanny Avengers. Mais alors par contre, le gros du truc en fait, c'est Remender qui se fait plaisir, c'est la suite un peu de ce qu'il a fait sur Uncanny X-Force, c'est le retour d'Apocalypse, c'est le retour de tout ce qu'il avait fait dans Uncanny X-Force. On avait quitté Kang, en fait, qui avait enlevé les deux jumeaux d'Apocalypse. Là, en fait, il y avait l'autre enfant d'Apocalypse qui décide de devenir le vrai Apocalypse, et donc il va sur une station spatiale pour communiquer avec les célestes et être béni pour devenir le nouveau Apocalypse. Et là, tout d'un coup,
surtout recevoir cette graine. Rappelez-vous cette fameuse graine, ouais, qu'on avait exactement dans Indiana X-Force.
Ouais. Et là, ça se passe pas très bien. Là, il y a un céleste magnifique qui arrive et géant. Et là, oui, je vais t'accepter comme être le nouvel Apocalypse. Et là, tout d'un coup, t'as les deux jumeaux Apocalypse qui apparaissent avec la hache de Thor et qui commencent à défoncer la gueule du céleste. Et en fait, il se fait défoncer le céleste. Et c'est la première fois qu'un céleste se fait tuer. Et du coup, ben, ça sent mauvais parce que les célestes, c'est quand même un peu.
J'ai pas fait de recherche, mais la première fois qu'un céleste se fait assassiner, je n'y crois absolument pas. On est dans l'univers Marvel et c'est toujours la première fois qu'un truc énorme arrive, ouais. Et en fait c'est jamais la première fois.
Alors moi je lis par rapport à ce qui était marqué dans le comic.
Ah oui, mais dans le comic aussi je l'ai lu, mais je suis certain qu'on a vu d'autres célestes mourir, mais j'ai pas fait de recherche, puis là voilà, comme ça de but en blanc je pourrais pas te sortir un épisode où il y a un céleste qui meurt, mais
ouais,
on a eu d'autres.
Mais a priori ça va leur revenir un petit peu dessus, et donc voilà, il y a les Uncanny Avengers qui apprennent ça, qui se rendent compte qu'il y a encore des choses qui se passent autour d'Apocalypse et des cavaliers de l'Apocalypse. Et c'est la merde, en fait. Il y a des vaisseaux spatiaux de célestes qui arrivent, ils veulent tout casser, et ça part dans tous les sens. Enfin, franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce numéro. Il y a beaucoup d'action, et il y a Thor qui se dit qu'il a peut-être fait des conneries dans le passé et qu'il faut qu'il rétablisse un peu les choses, et donc voilà, c'est cool. Bah, franchement, j'ai vraiment pris mon pied en lisant ça. J'ai trouvé ça cool.
Moi aussi pareil, j'ai adoré ce numéro. C'est typiquement un numéro qu'il faudrait donner à tous les scénaristes pour leur faire comprendre comment il faut écrire une histoire. Il y a tout dedans. On a de la menace. On a déjà des dessins superbes de Daniel Acuna.
Oui, qui, c'est vrai que je suis pas revenu sur les dessins, ils sont sublimes.
Ce céleste qui sort du portail, c'est magnifique, quoi. Ah, cette page est magnifique. On a vraiment tout. On a de la grosse menace qui pourrait détruire l'univers. On a des petits moments plus intimistes avec l'équipe qui galère, mais on a de l'action. On a tout, on a du dialogue, c'est pas un comic qu'on lit en 3 minutes, on met un petit peu de temps à le lire. Les intrigues avancent pour tout, que ce soit l'intrigue générale comme les intrigues pour l'équipe et des intrigues un peu plus personnelles. On voit cette relation, comme tu le disais, cette relation naissante entre Havok et la Guêpe. On voit aussi les problèmes de relation entre Rogue et la Sorcière Rouge, entre la Sorcière Rouge et Norman. Il y en a vraiment pour tout, il y a des moments héroïques, il y a des moments difficiles, il y a de tout. Franchement, ouais. Un superbe épisode. C'est comme ça que devraient être les écrits les très bons comics, tout le temps. On s'ennuie pas une seconde dans cet épisode.
Une série qui remonte vraiment bien la pente, hein, parce qu'après
un premier arc détestable au possible, calamiteux et très très long, et qui pouvait repousser n'importe qui, j'encourage tout le monde, toutes les personnes qui sont arrêtées à la fin de ce premier arc, à prendre la suite.
Ouais, parce à partir du vraiment, 5, 6, 7, ça se lit bien, et surtout si vous avez aimé Uncanny X-Force... C'est vraiment un peu le même style d'écriture, et ça reprend pas mal de choses de l'ancien arc de Remender, et c'est vraiment cool, quoi.
Vous m'avez donné envie.
Mention spéciale à la collection de fringues mutantes.
Oh, punaise, ouais.
De Janet.
De Janet, ouais. Ouais, Janet qui est quand même styliste, donc voilà, c'est amusant. Il y a de l'humour aussi, en plus.
Oui, il y a de l'humour aussi, voilà. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce numéro, quoi. Donc vraiment, un énorme bail, quoi. Énorme bail pour cet épisode.
C'est pas votre coup de cœur.
C'est le coup de cœur de Bruno, ouais.
Ah, pardon, excuse-moi.
Vu que c'était le coup de cœur de Bruno, c'est pour ça que j'ai choisi Jupiter's Legacy en coup de cœur.
T'as hésité entre les deux, quoi. Entre les deux.
D'accord.
Franchement, pour moi, si je devais acheter qu'un comic cette semaine, je serais bien emmerdé entre Uncanny Avengers et Jupiter's Legacy, tu vois.
Faut acheter les deux.
J'aurais dû en acheter qu'un.
Allez, les deux.
J'aurais été vraiment, vraiment dans le caca, quoi. Allez, on termine la partie Marvel avec toi, Flo, qui va nous parler du Guardians of the Galaxy numéro 2.
Oui, scénarisé par Brian Bendis. Je suis abonné à Brian Bendis ce soir. dessiné par Steve McNiven et un petit peu par Sarah Pichelli.
Ouais, quelques pages.
Ah déjà.
Quelques pages, donc qui fait ses débuts sur la série.
On a un magnifique dans une petite page en bas, une toute petite signature de Pichelli after Kirby. Chose qui se faisait très souvent. Elle a dû reprendre un petit dessin de Kirby qu'elle a modifié à sa façon.
Ah, j'ai pas vu. Effectivement, non. Bien vu. Donc, on reprend l'action là où elle était après ce très sympa cliffhanger du numéro 1. En gros, pour vous dire, Peter Quill, fils du roi de Spartax, le rencontre et il apprend qu'a priori, plus aucune race extraterrestre n'était autorisée à approcher de la Terre. Peter Quill, qui connaît un peu son papa, il se dit ça sent le roussi, et s'était pointé sur Terre avec ses potes les gardiens pour découvrir que Iron Man était aux prises avec les Badoons. Une race de très méchants aliens qui ont une tête de méchant. Et qui se sont mis à attaquer Londres. Pourquoi Londres, je sais pas, parce que toutes les autres places étaient prises par toutes les séries Avengers, probablement, où il se passe des trucs horribles. Et donc voilà, en gros, c'est de la grosse baston avec les gardiens qui débarquent pour casser du Badoons. Et on découvre également la deuxième partie de l'histoire, on va dire, en parallèle, les coulisses, on va dire, du plan fomenté par le roi de Spartax, en fait, hein, donc qui a réussi à réunir dans la zone négative à peu près tous les leaders des principaux empires galactiques. Il y a la reine d'Asgard, il y a l'empereur Shi'ar, il y a le leader des Kree.
Ouais, il y a l'intelligence suprême, on a aussi Nihilus, on a le chef des Badoons, et puis bien sûr le roi de Spartax. C'est d'ailleurs toute cette partie-là qui est dessinée par Pichelli.
Nihilus ?
Tout à fait.
Oui, Nihilus. Nihilus est de nouveau un chef élu.
D'accord.
Attention, c'est bien précisé qu'il a été élu par son peuple.
C'est vrai qu'il s'était fait élire après que Johnny Storm se soit fait éjecter. Ouais, c'est vrai. D'accord.
Là, donc, Bendis utilise bien des éléments de continuité. Hein. Vous voyez ?
Ouais, pas forcément ceux qu'on voudrait voir, mais...
c'est sûr. Et donc, en gros, voilà, c'est de la grosse baston d'un côté, et de l'autre côté, ça parlote avec les autres, et on en apprend plus sur le plan. Je vais pas vous en dévoiler plus, parce que ça serait con de vous lâcher la surprise, qui en plus n'est pas tellement une surprise, on va dire, puisqu'on a découvert que les Badoons s'attaquent la Terre pile au moment où tous les empires galactiques sont d'accord pour bannir la Terre.
On nous précise bien dans le comic, hein, d'ailleurs, cette réunion a eu lieu il y a 6 semaines.
Oui,
donc, voilà,
oui, tout à fait, voilà, c'est du flashback où on en apprend plus à pourquoi le roi de Spartax a dit à son fils que la Terre
la Terre est mise sous quarantaine, tout simplement.
Voilà, tout à fait. Et donc voilà, il n'y a pas tellement de surprises et cette partie-là est assez longue du coup et m'a pas transcendé quoi. Une mention à Groot qui a un rôle primordial dans cet épisode. C'est très 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 drôle, mais j'étais mort de rire quoi. Vraiment mort de rire pendant la baston, ça pète de partout et voilà, et puis Groot, enfin bref, je vais pas vous raconter mais c'est très très drôle. Donc voilà, c'est du bon Bendis, c'est très bien dessiné, que ce soit par Pichelli ou par Matt Niven, c'est top quoi. Pichelli, j'ai hâte de l'avoir parce que ses pages sont superbes quoi. C'est vraiment top. Et voilà, Steve, un petit mot peut-être?
Oui, bah de toute façon tu l'as très bien résumé. Hein, c'est un épisode où il y a vraiment de l'action. On est pris dans l'épisode complètement, que ce soit dans les phases, les passages de dialogue entre tout ce conciliabule de races galactiques ou les phases de baston pur. On sent qu'il nous place aussi un petit mystère sur Drax. Drax qui n'est vraiment pas en forme apparemment.
Oui, tout à fait. Pardon.
Alors peut-être qu'il y avait des explications, hein, mais le fameux AR, donc avec l'application. sur la case où on a Drax, c'est Coming Soon, hein. Cet après-midi encore, c'était Coming Soon. Donc, apparemment, d'accord, à chaque fois, ils vont nous faire le coup, chaque semaine, avoir des trucs en réalité augmentée, mais qui ne sont pas prêts. Merci beaucoup, Marvel.
Oui. C'est bien. Ah oui, je t'ai dit, ces éditeurs, ils avaient pas le temps. Voilà, quoi, ils ont pas trouvé.
C'est bien de nous inciter à lire des comics le jour de la sortie. Très, très bon épisode, un bon petit cliffhanger. Reste que, comme on disait tout à l'heure, hein, avec tout ce qui se passe sur Terre, franchement, on ne comprend pas trop comment la Terre n'a pas explosé déjà avec autant de races qui lui foncent dessus.
Oui, et les Badoons qui ont vu qu'il n'y avait plus de place de parking et qui sont allés à Londres, du coup, pour péter la gueule à Londres.
Reste le courrier des lecteurs, quand même. Chose importante. Puisque, dès la première lettre, quelqu'un pose la question de « Qu'est-il arrivé à Richard Rider ?» Eh bien, on répond « Voyez dans Nova, hein, ils vous répondront là-bas. » Et puis, comment... Peter et Thanos ont réussi à s'échapper. Ça, c'est pas pour tout de suite. On vous expliquera plus tard.
Attends, il y a tous les trucs avec Age of Ultron et machin et trucs.
Moi, j'ai envie de dire, Bendis, en fait, n'en sait rien du tout. Il a récupéré ces personnages-là. Ça confirme ce que je pense. Ça fait un an qu'il se fout de notre gueule en disant, ces personnages-là sont de retour. Vous avez qu'à l'accepter. Fermez vos gueules. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que au bout d'un an, si t'as pas expliqué pourquoi les personnages sont de retour, c'est que tu sais pas. Bref, ça n'empêche pas que la lecture est très bonne. Ça reste un très très bon épisode.
Oui, c'est très bon. C'est moins profond que au niveau des trames que Uncanny X-Men et tu vois ces trucs très très psychologiques. C'est plus du Bendis, de la baston, et ça se lit très bien.
Ouais, quoi. Mais il y a quand même un petit plan derrière.
Ouais, c'est ça. Il y a un plan, hein, des méchants, des trucs un peu et chelous.
Il essaye, à certains points, de faire attention à la continuité. Pourquoi fait-il pas attention à d'autres points? Mais bon, débat éternel. Gros bail, donc.
Ouais, gros bail, c'est très cool. Très, très cool. Très fun, très cool. Moi, j'y connaissais rien en Guardians, et c'est génial.
Oui, on apprend aussi, d'ailleurs, très vite dans le courrier des lecteurs, qu'il n'y a pas de plan prévu pour Cosmo. Et c'est bien dommage que ce personnage-là ne soit pas de retour. Bon, si vous n'avez pas lu les Gardiens précédentes incarnations
par Cosmo, ouais.
Abnett et Lanning, bah c'est simple, c'était le premier chat envoyé dans l'espace par les Russes qui s'est perdu et qui est devenu télépathe. Imaginez ce personnage-là, d'accord, en plus de Rocket Raccoon, bien sûr, parce que ces deux personnages-là ne pouvaient pas se sentir. Un raton laveur et un chien ne pouvaient pas s'apprécier.
Ça
c'était génial.
Rigolo,
je vous encourage tous à lire vraiment le run d'Abnett et Lanning sur les Gardiens, c'était vraiment très très bon, quoi. On va terminer la partie des reviews avec les sorties d'essai et on commence par le Batman Inc. numéro 10. Ce, bien sûr, scénarisé par Grant Morrison avec des dessins de Chris Burnham, mais aussi de Jason Masters, ainsi que Andrei Bressan. Eh bien, dans cet épisode, ça va de mal en pis pour Batman. Grant Morrison nous le met encore plus au fond du trou, comme si c'était possible. Batman est persona non grata dans Gotham. Il est recherché. La société Batman Incorporated est liquidée, donc il n'y a plus forcément d'aide de la part de Bruce Wayne, en tout cas.
Officiellement,
pas publiquement. Et puis, on apprend un peu plus sur le plan, enfin, les fins du plan de Talia, alias le Léviathan, et les relations qu'elle a avec son fils cloné, les relations qui ne sont pas au beau fixe. Voilà, grosso modo, pour le pitch. Reste un cliffhanger assez énorme où Batman va utiliser des moyens plus qu'étranges pour essayer d'aller affronter Talia et le Léviathan.
Ouais, c'est extrême.
Tout ce qu'il a récupéré, tout ce qu'il pouvait, de toutes les choses que l'on a pu voir passer à travers le run de Morrison, mais aussi à travers l'histoire de Batman. Voilà, grosso modo.
Un bon épisode. Bien résumé. Ouais, un épisode.
Merci,
un épisode où il se passe plein de choses, de transition, enfin pas vraiment de transition, mais c'est un épisode que j'ai trouvé très correct.
C'est la préparation à l'affrontement final, hein, finalement.
Voilà, ouais. On sent qu'il reste plus que 3 numéros et que ça va chier, quoi.
2
13, je crois que ça s'arrête au 13.
Ah, je croyais que ça s'arrêtait au 12.
Je crois qu'il a gagné un épisode supplémentaire. Comme pour Action Comics.
Oui, il nous refait le coup avec Action Comics, donc ça veut dire qu'il y en aura 2. Dont le dernier sera double. Finalement.
T'as besoin de place.
Ouais, non, il veut surtout pas s'en aller, en fait. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il aura quitté le giron de DC, il vendra plus rien.
Non,
on va pas
se cogner.
Le mec gagne un fric fou avec DC. Enfin, voilà. Faut aussi pas trop cracher dans la soupe, dire, les comics mainstream, j'en ai ras-le-bol, je veux arrêter tout ça. Ouais, bah, non. La preuve
que il a pas mal de choses encore à faire avec il a son Multiversity, il a son Wonder Woman Earth One.
Ouais, mais c'est un projet à part. Wonder Woman Earth One, ça reste un projet à part, même si c'est du mainstream pur, ça reste un graphic novel, ça reste autre chose.
C'est clair.
Quant à Multiversity, j'y croirai quand je le verrai, hein.
C'est clair.
C'est la vieille arlésienne, celle-ci.
Mais ouais, un épisode cool. Voilà. Barré, plein d'idées folles et tout dans enfin voilà, comme d'habitude, quoi.
L'alternance de dessinateurs est plutôt bien utilisée puisqu'on a les phases, on va dire, batmaniennes et puis les phases taliaennes, je vais le dire comme ça, qui sont séparées entre plusieurs artistes. Une unité graphique, notamment du Chris Burnham, aurait été très intéressant, mais je pense qu'il le garde surtout pour les 2-3 derniers épisodes, du coup. Donc, je préfère que le monsieur se repose et qu'il nous offre de très belles planches pour cet affrontement final.
Exactement.
Voilà, rien de plus à rajouter.
Petit bail. Voilà.
Ouais, moi, bye. Franchement, même si la série commençait très lentement, était franchement très lente et longue, depuis l'épisode, on va dire l'épisode 6, ça bouge vraiment bien et je suis plutôt content de la fin de run et j'ai quand même hâte que ça se termine pour voir où il voulait aller, finalement,
ouais,
depuis tout ce temps.
Tout à fait d'accord.
On continue avec une ambiance très dark puisqu'il s'agit de Justice League Dark 19, Flo.
Oui, nouvel arc, donc, justement.
Attention, des petites vannes d'intro, hein, maintenant.
Ouais, c'est pas mal.
C'est
hein,
toujours
c'est
co-écrit par Jeff Lemire, et Ray Fox, Et c'est dessiné pour la première fois. Alors, c'est dessiné par Michael Ranin qui fait les layouts et la cover. Et c'est fini et ancré par Vincente Cifuentes. Donc, deux bossent dans le même studio en Espagne. Et ma foi, ça se rapproche quand même pas mal du style de Ranin. Hein. C'est légèrement différent, mais c'est toujours aussi beau. Donc ça, c'est top. On suit, en gros, dans ce nouvel arc, Constantine, qui découvre que la maison des mystères, la House of Mystery, donc le QG de Justice League Dark, a été volée. Ils ont volé la House of Mystery, et donc il va voir ses potes de la Justice League Dark, Xanadu, Deadman, et Frankenstein, pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Ils appellent Constantine, il appelle Swamp Thing, qui est là en guest, et qui va essayer de les aider à retrouver cette House of Mystery, et ils vont se rendre compte que c'est un piège. Swamp Thing va prendre un peu cher, et ils vont chacun un peu se téléporter dans la ville, on ne sait pas trop où, et chacun va être confronté à ses cauchemars, en fait, des manifestations de leur cauchemar. Et donc c'est assez bien trouvé, chacun est séparé, donc tout le groupe est séparé, et donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. La menace a l'air assez grosse, je vous raconte pas la menace, mais c'est un vilain classique de l'univers magique de DC, un peu comme ce que Jeff Lemire aime quand il écrit Justice League Dark, quoi, faire revenir ses vieux personnages. Donc c'est toujours très, enfin c'est bien que l'arc avant un petit peu poussif soit fini, parce que là ça repart vraiment très 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 bien, très bien écrit.
Je sais pas, mais je l'ai pas lu celui-ci, hein. C'est vraiment une interrogation de ma part, mais bon, j'ai deux épisodes de retard maintenant sur Justice League Dark, mais j'ai l'impression qu'ils s'amusent vraiment à essayer de nous séparer l'équipe à chaque fois en ce moment. Je retrouve ce même schéma.
Oui, la fin de l'arc précédent va être justement riche en conséquences, quoi. La Justice League Dark est modifiée, et là encore, on voit un petit peu les germes peut-être de Trinity War, parce que il y a un petit guest qui est Trevor, de l'Argus, mm-hmm. qui va essayer d'amadouer un des membres de la Justice League Dark pour un peu faire une taupe, quoi, parce qu'il a pas confiance en Constantine.
Bah, sachant que de toute façon cette série là fera partie du crossover, il serait temps d'essayer d'allier un peu quand même.
Ouais. Voilà, donc ça là arrive, c'est clairement en prologue, même si ça prend deux pages dans le comic. Par contre, on peut se demander si le vilain de cet arc aura un rôle dans Trinity War, parce que en fait cette histoire est liée à Trinity War. Au niveau des motivations de ce vilain, c'est lié à ça. Et voilà, donc c'est assez passionnant, c'est vraiment nettement meilleur que l'arc précédent qui était poussif. Donc moi c'est super, c'est beau, c'est bien écrit. Je sais pas qui écrit vraiment les dialogues là, mais
je crois que c'est Ray Fox.
En tout cas c'est très cool, hein. C'est vraiment très très cool. C'est toujours une bonne série et ça rentre bien. Alors dans la cover il y a Flash, et en fait Flash on le voit juste un petit peu à la fin, mais a priori il apparaît plus dans le prochain épisode. D'accord. Donc la cover veut pas dire grand chose, mais voilà, j'ai hâte de lire la suite et de plonger dans cette Trinity War qui va arriver dans quelques mois.
Donc un gros bail.
Donc c'est un gros bail pour moi, et c'est mon coup de cœur de la semaine, parce que ça aurait pu être Jupiter's Legacy, c'est clair, mais je me suis dit autant être un petit peu original, et ça c'est un bail, parce que c'est une série qui est un peu sous-estimée et qui est top, qui est vraiment top.
On va terminer la partie d'essai avec toi, Bruno, qui va nous parler du All-Star Western 19.
Ouais,
un choix étrange.
Étrange. Justin Pagnotti et Justin Gray au scénario. Et alors attendez, pour les crédits de dessin, c'est Morita. Morita, il n'a pas de prénom. Il s'appelle Morita, artiste.
Qui dessine depuis très longtemps All-Star Western.
Voilà, mais alors All-Star Western, justement, j'avais lu le premier. Et là, pourquoi me remets-je à All-Star Western ? Eh ben, c'est grâce à cette cover What the Fuck, puisque ça faisait plusieurs mois qu'il y avait des rumeurs comme quoi le personnage qu'on verrait à côté de Jonah Hex sur la cover serait Booster Gold. Et effectivement, donc voilà. Donc ça commence dès la première page, donc c'est pas un spoil. On a Booster Gold, en fait, qui avait disparu de Justice League International, qui arrive dans le Far West, donc façon Back to the Future 3. Pardon. Et donc qui devient un peu le shérif d'une ville. Là, il rencontre Jonah Hex. Il veut l'arrêter parce que Jonah Hex vient d'éliminer un certain nombre de personnes. Comme lui, il est chasseur de primes. Il se dit, toi, t'es un assassin. Donc après, Jonah Hex explique, il dit que non, qu'il est chasseur de primes et compagnie. Donc ils deviennent potes. Ça, c'est cool. Et sauf que pendant ce temps-là, Booster Gold, il est pas dans la ville où il est le shérif. Et à ce moment-là, il y a toute une troupe de bandits un peu bizarres qui va dans cette ville et qui détruit tout, en fait. C'est des sacrés hors-la-loi. Ils ont des grosses sulfateuses, ils ont plein de dynamite, et en fait, ils volent la banque et ils détruisent la ville de Booster Gold. Donc après, il rentre, il est pas content, et il va faire une enquête pour savoir ce qui s'est passé. On a un petit flashback qui explique comment il est arrivé là et comment il est devenu shérif. C'est assez vite expédié. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de réponses et avoir un petit lien avec Justice League International. Mais là, clairement, le personnage me paraît un petit peu mis ici juste pour pouvoir vendre du All-Star Western, parce que ça se vend pas très très bien.
Oui, puis peut-être aussi qu'ils en ont marre de ça, d'entendre les questions. Où est Booster Gold?
Voilà, c'est ça. Mais sauf que bon, ça a pas trop d'intérêt scénaristique, on va dire, même si bon, il y a des petites scènes d'humour avec le fait que Booster Gold connaisse le futur et connaisse déjà Jonah Hex et ce qu'il a fait dans l'histoire. Bon, ça reste une lecture plaisante. Je suis pas trop fan des dessins. L'ambiance western est sympa, mais je m'attendais à un truc un petit peu plus passionnant. À la fin, on a quelque chose qui m'a un petit peu plus intéressé, c'est la Stormwatch, en fait, la littération Stormwatch de cette époque, où on voit un personnage, une sorte de cow-boy hyper doué avec les flingues qui rejoint Vandal Savage. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que j'aime bien Stormwatch. Mais sinon, je dirais un numéro 1, pas mal, mais ça... enfin. Voilà, c'est si vous êtes fan de Booster Gold et que vous voulez avoir la jolie couverture, qui est assez sympa, ça j'avoue, je vous conseille de le prendre, mais sinon pour moi ça reste juste un check-it.
Ok, on va maintenant terminer l'émission avec notre partie TPB, comme chaque semaine, les TPB les plus intéressants qui sont sortis cette semaine justement, et on commence avec Deathmatch chez Boom, qui arrive à la fin de son premier arc. Le numéro 5 sort cette semaine et sort en même temps le TPB. C'est vraiment pas cher, c'est à $10. Cool. Vous avez les 5 premiers épisodes. C'est écrit par Paul Jenkins avec des dessins de Carlos Magno. Chez Dark Horse, nous avons la sortie en hardcover de The Creep, écrit par John Arcudi et dessiné par Tonsi Zonjic. Ça c'est pour les covers, c'était Jonathan Case qui était au dessin. Ça reprend le numéro 0 ainsi que les épisodes 1 à 4 de la mini, une mini qu'on avait lue avec Nono. Je vous renverrai vers d'anciens Comics Weekly pour entendre les reviews de ces premiers épisodes. Une bonne histoire de polar assez sombre, assez noire, et finalement qui rentre bien dans le ton de polar à la Dark Horse. Chez DC, nous avons la sortie d'une série que Bruno aime beaucoup, le deuxième TPB de Blue Beetle, épisode 7 à 12, ainsi que le Green Lantern New Guardians numéro 9, avec qui la série avait fait un petit crossover, afin de terminer quelques intrigues. Il était temps que cette série sorte, hein, quand même.
Ouais, bah, c'était pas mal. C'est pas la série de l'année, mais ça se lit bien.
C'est à $19.99. Chez IDW, nous avons un recueil de one-shot de Joe Hill qui s'appelle Joe Hill Terrifyingly Tragic Treasury Edition. C'est à $10. Vous avez les one-shot Kodiak, Freddy Vertam Goes to Hell, et puis vous avez le one-shot The Cape aussi, ainsi qu'une petite histoire Open the Moon. Joe Hill, un scénariste qui a pas mal de talent, hein, quoi, vous pouvez découvrir sur Lock and Key, que je vous encourage fortement à vous procurer si vous ne connaissez pas. Et voilà, ça vous permet de le voir sur des histoires un petit peu plus courtes. Joe Hill, rappelons-le, c'est le fils de Stephen King.
D'accord.
Nous avons Morning Glories qui sort chez Image, le quatrième tome qui contient l'épisode 20 à 25, toujours écrit par Nick Spencer avec des dessins de Joe Aisma. Et chez Marvel, maintenant, pour terminer, nous avons tout d'abord la sortie en recueil de Castle, Richard Castle's Deadly Storm, qui sort en TPB pour $15. Nous avons aussi une nouvelle édition de Squadron Supreme, la très très grande maxi-série de Mark Grunwald, une série qui met les super-héros dans des positions politiques bien avant tout ce qui a été fait comme Watchmen, etc. Mark Grunwald et Bob Hall au dessin, ça reprend toute la mini-série, le 1 à 12, ainsi que le Captain America 314. Vous l'avez peut-être lu, Bruno, Flo, Squadron Supreme?
Non, pas du tout. Moi, j'ai lu... comment ça s'appelait, la truc qu'il y a eu après?
La version Ultimate, là?
La version un peu Ultimate, ouais, qui était de Gary Frank.
Plutôt de vous intéresser à cette première version, qui certes un peu vieillit au style d'écriture, mais par contre, le thème était vraiment super en avance, et c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Ça vaut $35. mais il y a quand même 13 épisodes dedans et ce sont des gros épisodes.
Ouais, ça peut être cool ça.
Toujours dans les projets un petit peu étranges de chez Marvel, en tout cas un petit peu en marge, nous avons la sortie du hardcover de The 12. Et oui, cette série qui a mis si longtemps à se terminer, qui reprend donc les 12 épisodes de la mini-série, enfin de la maxi-série, pardon, ainsi que le one-shot The 12 Spearhead. C'est écrit par J. Michael Straczynski avec des dessins de Chris Weston et ça vaut $35. Et pour terminer, on tape dans le vieux avec X-Men Fall of the Mutants volume 2, notamment la partie X-Factor, puisque ça contient les X-Factor 18 à 26. Hulk 336-337, Power Pack 35, Daredevil 252, Captain America 339 et Fantastic Four 312. Un bon moyen de vous replonger dans cette page d'histoire qui a vu naître notamment Archangel, qui voyait X-Factor affronter Apocalypse, et finalement c'est de saison vu ce que l'on voit dans Uncanny Avengers.
Ouais.
Ça vaut $35, c'est un très très gros volume. Si vous ne connaissez pas ces épisodes, je vous encourage fortement à vous les procurer là aussi. Une très grande page d'histoire dans l'univers des mutants. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous avez vraiment de quoi choisir, vous avez du très très bon, vous avez des immanquables cette semaine. Jupiter's Legacy, Uncanny Avengers. Vous avez aussi le Justice League Dark, qui est une très très bonne série. Et puis, bien sûr, tous les TPB si vous n'en avez pas assez. D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. Vous retrouvez tous les anciens épisodes sur iTunes et sur le site, bien sûr. Et on se quitte avec un petit message de Bruno.
Oui,
qui avait quelque chose d'important à nous signaler.
Oui, bah c'est pour vous faire penser un petit peu à tous les lecteurs qui lisent de la VO que le 4 mai, en fait, c'est le jour du Free Comic Book Day. Et donc, il y a pas mal de comic shops en France qui font des événements pour cette journée-là. Et en particulier, bah donc notre partenaire Publish Bordeaux qui, pour l'occasion, fera aussi une distribution de comics gratuits à partir de 1€ d'achat. Et il y aura aussi des petits concours, des petits quiz, il y aura des trucs sympas. Mais je pense que dans les autres comic shops de France aussi, il y aura des événements. Donc voilà, donc c'est pour vous y faire penser. Le 4 mai, n'oubliez pas, le Free Comic Book Day en France aussi.
Et oui, un événement qui est de plus en plus suivi. Et c'est une très 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 bonne chose d'avoir aussi des petites fêtes comme ça qui peuvent toujours amener des gens à découvrir des nouveautés.
Ouais, c'est cool. C'est cool, faudrait le faire plus. Faire des fêtes de quartier quand même. Là où il y a des comic shops. Avec des cosplays et tout.
Toi aussi, déguise ton quartier tel une ville de super-héros. Allez, on va faire Gotham et on va faire Metropolis. Non mais c'est vrai que quoi de mieux pour attirer un nouveau public que des exemplaires gratuits qui permettent de voir ce que c'est, hein, tout simplement.
Ouais, et puis il y a le petit prologue d'Infinity qui est prévu chez Marvel, il y a des choses intéressantes pour Walking Dead avec un petit recueil qui reprend toutes les petites histoires qui étaient parues soit dans Playboy, soit dans je sais plus quel autre magazine, donc des choses un petit peu inédites, donc il y a des trucs sympas cette année dans les...
Et justement, SCD. N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous pour des si vous avez des amis qui sont... qui ont envie de découvrir un petit peu cet univers, c'est vraiment le meilleur moment pour essayer de débuter, quoi. Vous avez des trucs gratuits, voilà, profitez-en, quoi.
Et il y a des maisons d'édition françaises comme Wanga, Indies, et puis il y a aussi Scarce qui est un prosine sur les comics, qui fait exactement et qui fait un effort aussi et qui publie un Free Comic Book Day donc en partenariat avec certains comic shops et ça c'est vachement cool aussi. Du coup, il y aura des choses en français aussi.
Très très bonne initiative que la France s'y mette aussi, quoi. D'ailleurs, je crois même que la France s'y est mis, même pour la BD européenne. Alors, ça ne tombe pas le même jour.
Il y a eu un test, c'était le mois dernier, je crois. Ouais. Je sais pas ce que ça a donné, mais ouais, il y avait des albums à distribuer gratuitement dans les librairies. C'est intéressant comme concept.
Ouais, très intéressant. Voilà. Donc, n'oubliez pas, le 4 mai, notamment à Pulp, c'est un de nos partenaires, mais aussi dans tous les autres comic shops de France, ou presque tous, hein, le Free Comic Book Day. Un événement qui donc est maintenant plus que mondial, même chez nous.
Voilà.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine, et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.
I'm Batman.